Bonjour, nous sommes le lundi 8 avril, il est 14h. Vous écoutez Radio Campus Paris à Neukölln à Berlin, c'est aussi l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste,
pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Je voudrais devenir peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
Comme tous les 15 jours, la relève par la rencontre des nouveaux talents. Et invite les premières fois. Aujourd'hui, on va parler de Berlin et de jeunesse, de livres et d'amour. Aujourd'hui, on reçoit Prune Antoine. Bonjour Prune Antoine.
Bonjour.
Merci d'être venue. Vous venez de publier votre premier roman, L'heure d'été aux éditions Anne Carrière.
Tout à
Alors,
fait.
Alors, pour commencer, j'avais envie de vous poser une question d'actualité qui déchire l'Europe en ce moment. Quel est votre avis sur l'heure d'été ?
Très bonne question. Très bonne question.
Est-ce que vous en avez un d'abord? Un avis?
Non, j'ai pas. Bon, si, j'aimerais bien rester à l'heure d'été, je pense comme tout le monde. Après, c'est peut-être une utopie, en tout cas si on se réfère au titre du roman, qui est beaucoup lié à cette période de la vie entre peut-être 20 et 35 ou 40 si on est super optimiste.
Les 50.
Hein. Les 50, poussons jusque 50. Où on
Donnons
est un
de l'espoir
peu dans...
à nos auditeurs.
D'accord. Où il y a cette espèce de légèreté, d'insouciance. Voilà, donc malheureusement, c'est une période qui passe, mais qui est quand même très, très agréable à vivre.
On vit très tard le soir et on se lève très tard le matin.
Exactement.
Comme le soleil, c'est ça. La quatrième de couverture de votre livre dit que vous êtes une journaliste indépendante et que vous travaillez à Berlin. Alors j'avais envie de demander pourquoi passer au roman. L'actualité ne vous suffisait plus ?
Alors, comme vous le savez, j'imagine, il y a quand même une sacrée crise des médias actuellement. La manière de travailler, moi, ce qui m'a toujours plu, c'est de faire des grands reportages, de partir à l'étranger sur le terrain. Malheureusement, il y a de moins en moins de moyens financiers et puis il y a quand même un certain nombre de contraintes. Ce qui me plaît là dans la fiction, dans le basculement au roman, c'est d'avoir une liberté absolue dans les thèmes abordés, dans le style, dans la manière de raconter une histoire, d'avoir beaucoup plus d'espace. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a convaincue, cet espace de liberté.
Vous écrivez dans votre livre, entre les fake news ou la post-vérité, ses anciens collègues étaient devenus des poulets sans tête qui couraient partout, les médias des machines à faire du bruit pour rien, copier-coller, standardisation, absence d'idées, de vision. Après avoir quitté Calum, Violette avait enchaîné quelques piges. C'est vraiment la vision que vous avez du métier donc ?
Disons qu'après 10 ans de journalisme en indépendant à l'étranger, je pense que c'est une vision assez lucide de l'état des médias actuels.
Vous avez du mal à vendre des reportages ?
Quand les reportages sont bons, on les vend, mais après, c'est les tarifs. Les tarifs ont énormément dégringolé ces 5 dernières années. Les frais ne sont pas toujours pris en charge. On n'en vit pas. Alors, c'est toujours possible, effectivement, de placer 4 pages, 16 pages dans des magazines prestigieux, mais ça ne suffit pas pour vivre. Donc, il y a un moment donné, principe de réalité.
À l'inverse, le roman, romancière, c'était quelque chose dont vous voyiez depuis longtemps ou c'est, alors, comme vous dites, c'est nécessité fait loi. Est-ce que vous avez eu du temps libre ?
J'ai pris ce temps, en fait, pour écrire le livre. Ça a correspondu à un questionnement personnel que j'ai traversé à un moment donné. Et comme je suis une grande lectrice, j'adore lire. Je me posais un certain nombre de questions auxquelles je n'avais pas trouvé la réponse. Et donc, je me suis dit, tiens, basculons dans le roman. J'avais écrit un premier livre, mais de non-fiction. Il y a 3 ans, La fille et le Moudjahidine, c'était en fait sur l'itinéraire d'un jeune qui se radicalisait, en fait, un jeune réfugié en Allemagne. Donc, ça collait énormément à l'actualité. C'était déjà un première incursion, en fait, dans le très long format, avec une construction narrative, etc. Mais toujours basée sur la réalité. L'heure d'été, là, j'ai vraiment laissé l'imagination parler.
Donc, contrairement au mythe, le premier roman n'est pas autobiographique.
Il y a des morceaux, évidemment, autobiographiques. Mais ce qui est génial, c'est que moi, j'ai l'impression de me retrouver dans tous les personnages. Il y a des petits morceaux de moi dans tous les personnages. Je ne peux pas dire que Violette, c'est moi, Mire, c'est moi. C'est dans tous ces petits personnages, j'ai mis des bouts de moi.
Vous dites de Berlin, dans ce roman, que c'est une ville pour devenir, pas pour être. C'est ce qui vous a fait y aller ?
Probablement. Je suis très reconnaissante à la ville. Enfin, en tout cas, moi, je me suis installée en
2008. Vous aviez quel âge ?
J'avais 26 ans quand j'ai quitté Paris. Donc, je me suis installée au pire moment, en 2008, au moment où la crise économique arrivait. Donc, c'était peut-être pas le meilleur moment pour s'installer en freelance, pour quitter un job à peu près fixe à Paris. Mais j'ai été fascinée par les promesses. Bon, j'avais visité Berlin au tournant des années 2000. J'avais eu un véritable coup de foudre pour la ville. Je m'étais promis que j'allais y retourner. Donc, 2008, j'arrive. J'ai vécu une sorte de lune de miel pendant peut-être 3-4 ans, jusqu'à ce que finalement, c'est cette image aussi de liberté qui était une réalité parce que les loyers n'étaient pas chers, il y avait vraiment beaucoup d'espace. jusqu'au moment où ça s'est devenu un argument marketing pour la ville qui est devenu complètement fantasmatique pour ma génération. C'est-à-dire que le nombre de gens qui sont venus s'installer à Berlin ces dernières années, c'est exponentiel.
Ça me fait penser à ce que disait un jour un jeune collègue, pas à la radio mais ailleurs, qui disait « Berlin, c'est bien, c'est génial, la bière n'est pas chère ». C'est ça le marketing de Berlin ?
Bah, disons qu'en fait, le maire de Berlin a sorti ce...
Arm Aber Sexy.
Exactement, Arm Aber Sexy, ça veut dire... pauvre mais sexy, vraiment au début des années 2000, parce qu'effectivement, tous les artistes pouvaient avoir un atelier, avoir 200 mètres carrés pour peindre un rond. D'ailleurs, c'était une anomalie immobilière, personne ne savait... c'était lié à plein de facteurs historiques, la réunification, etc. Mais ça a été comme ça, alors que des villes comme Paris, Londres étaient déjà complètement, pas boursouflées, mais en tout cas où c'était assez difficile de trouver sa place si on avait un tempérament un peu artistique. Berlin a offert cet espace-là jusqu'au tournant des années 2010-2011.
Et c'est ce qui a attiré tous les jeunes ? Il y avait aussi ça, il y avait une espèce d'émulation qui était liée au fait qu'il y avait beaucoup de jeunes ?
Je pense qu'en fait, ce qui est très intéressant et ce qui est aussi dans le roman, j'avais envie d'aborder, c'est très difficile de parler d'une ville, en fait, d'écrire sur une ville. Comment on fait ? Quel prisme vous prenez ? Donc moi, je me suis dit, ok, je vais avoir des personnages qui vont me permettre de parler à la fois d'un aspect de la ville, mais aussi de questions européennes, que ce soit la crise financière, la crise grecque, la crise des réfugiés. Mais j'ai voulu aborder Berlin par le prisme de l'exil. Donc, c'est-à-dire que quasiment tous les personnages du roman ont quitté leur.
Il y a très peu d'Allemands finalement dans votre livre, sauf une colocataire qui n'est pas très sympa d'ailleurs.
Alors, il y a la coloc, il y a quand même Rita Kimmel qui est cette dame assez âgée qui a vécu toute l'histoire de l'Allemagne. Et puis, il y a le chauffeur de taxi qui bascule beaucoup dans le racisme et le populisme, qui est aussi une réalité de l'Allemagne aujourd'hui. Donc le prisme de l'exil est d'avoir ses habitants. Parce que Berlin est une ville qui a connu énormément de vagues d'immigration. C'est une ville vraiment pour le XXe siècle essentielle, qui a joué un rôle incroyable. C'est un lieu de fracture de deux systèmes, capitalisme, communisme.
La ville du mur.
Oui.
La ville où il y a eu un mur quand même en Europe.
Il y a eu le mur divisé, mais il y a eu aussi énormément de travailleurs turcs invités dans les années 60. Ensuite, il y a eu au moment de l'effondrement du bloc soviétique, beaucoup d'immigrés de tous ces anciens pays. Il y a eu au moment de la crise économique en 2008, beaucoup d'Européens, de jeunes Européens, Italiens, Grecs, Espagnols, qui sont partis en Allemagne pour essayer vraiment de tenter leur chance, parce que la situation économique, on se rappelle très bien en 2008, c'était quand même la catastrophe. En Italie, la fameuse génération des bamboccioni qui devaient rester chez leurs parents parce qu'ils n'arrivaient pas à s'assumer. En Espagne, la même chose. Donc, il y a eu un afflux d'Européens du Sud, de jeunes Européens. Il y a la dernière vague, c'était les réfugiés en 2015.
Vous aviez appris l'allemand à l'école ou vous aviez un fit particulier avec la culture allemande? Parce que moi, j'ai l'impression que Berlin, c'est une ville dont l'image n'a rien à voir avec l'image de l'Allemagne. Parce que c'est à la fois l'Allemagne et c'est pas l'Allemagne.
Tout à fait. C'est d'ailleurs la raison, je pense, pour laquelle beaucoup de gens s'installent. Je ne sais pas si l'Allemagne fait rêver, fantasmer énormément de gens. Non, alors, c'est très injuste de dire ça. Hein, parce que quand on vit en Allemagne, les Allemands adorent les Français, par exemple. Et quand on parle d'allemand aux Français, la réciproque n'est pas forcément vraie. C'est certain que Berlin a des caractéristiques qui sont très très loin de l'Allemagne. Mais quand on vit un moment, on est rattrapé quand même par l'administration, le système et tout ça. Voilà, c'est difficile de louvoyer.
Alors vous avez donné à chaque chapitre de votre livre le titre d'un film. On trouve par exemple « Par-delà les nuages »,« Apocalypse Now » ou « Happiness Theory ». Pourquoi ce choix ?
Eh bien parce que j'aime beaucoup le cinéma d'une part. J'ai pas mal de films allemands en fait en titre de La Chute, La vie des autres, parce qu'en fait je trouve qu'il y a Oh Boy aussi, qui est un film absolument génial, qui est sorti il y a 5 ans sur une sorte de anti-héros. C'est une journée dans Berlin en noir et blanc, magnifique. J'avais envie un petit peu de mettre un petit peu le doigt sur ce cinéma allemand qui est peut-être parfois mal connu ou peu connu.
Vous vouliez nourrir le livre de cet imaginaire-là ?
Exactement. Et puis c'est des marqueurs forts pour chacun en fait. C'est des films pour beaucoup qui ont été vus, donc qui rappellent des choses aux lecteurs aussi. Et puis c'est toujours le système des correspondances, littérature, cinéma, musique. Il y a des correspondances entre tous ces arts-là qui se répondent.
Votre Berlin imaginaire à vous, c'est Bowie par exemple ? C'est Bowie à Berlin ? C'est Louis ? C'est qui ?
Non, Bowie, c'était... Alors,
c'est Londres.
C'est Londres, plutôt. Oui, non, c'est Londres. Non, Bowie, les traces de Bowie, elles sont partout. Il y avait un café que je fréquentais beaucoup qui s'appelait Heroes, donc du nom de sa chanson. Mais il y a eu tellement d'artistes qui sont passés aussi à Berlin. C'est difficile. J'ai pas un référentiel.
Non, mais avant d'y aller, c'était quoi ? Pardon, c'était ça ma question.
Ma question
était mal posée. Avant d'y aller, c'était quoi votre Berlin imaginaire ?
Moi, j'adorais. J'ai eu l'impression, en y allant au tournant des années 2000, que tout était possible. Et c'est une impression, je pense, qui est extrêmement...
C'était en fait votre Amérique plutôt.
C'était exactement mon Amérique. C'était mon, là où je pourrais me réaliser, là où je pourrais, j'aurais la chance de faire ce que j'avais envie de faire. Tout le monde avait l'air tellement détendu. Il y avait vraiment un espace des possibles, quoi.
Vos références, vos influences, elles sont où ? Bah, vous avez dit que vous aimiez beaucoup le cinéma. Vous êtes, quand, vous avez, quand on écrit, j'imagine, on pense à des auteurs qu'on aime. C'est qui vos auteurs modèles ?
Alors, j'ai deux auteurs que j'aime particulièrement. Jemma Kincannay.
Un New-Yorkais, donc.
Un New-Yorkais qui a en fait écrit cette sorte de trilogie qui commence avec
20 ans, 30 ans et des poussières.
Exactement, 30 ans et des poussières. Là, donc en fait,
moi
il
non
a
plus
pris...
j'ai un trou sur les deux autres.
Non, ouais, les deux
je
autres,
sais
mais...
que j'adore le dernier, mais j'ai
voilà,
oublié celui
mais,
du milieu.
Mais en tout cas,
qui se passe sur le 11 septembre.
Voilà, exactement le 11 septembre. Et puis après, il y avait la crise aussi, enfin la crise économique. Il y a la manière dont il entremêle en fait la ville avec une histoire personnelle. Je trouvais ça absolument fascinant.
L'histoire d'un couple, en fait.
En plus, c'était l'histoire d'un couple et puis qui suit sur plusieurs décennies, donc c'est absolument génial. Et puis, il y a une auteure turque.
C'est pas grave.
Alors, attendez, mais que j'adore vraiment, je la vénère.
Et ben voilà.
Elif Shafak, avec La bâtarde d'Istanbul. Pareil, où c'est une histoire de femme sur plusieurs générations, mais qui se passe, où la ville aussi. Ça m'intéresse beaucoup, le comment on représente une ville dans l'écrit. C'est assez difficile. Quel prisme.
Et dans le cinéma ?
Des
bon, je sais pas, vous avez des, parce que votre livre fait un peu penser, alors je sais pas si ça va vous faire plaisir, à L'auberge espagnole de Clapiche.
Ah
bah, à ce côté là
évidemment,
ouais.
Évidemment,
est-ce que
évidemment.
Vous y pensez quand vous écrivez ce livre là ou c'est, vous l'avez vu il y a très longtemps et vous avez oublié, c'est un peu Erasmus, c'est
non,
les
mais
jeunes
en fait,
qui partent
de fait c'est exactement la manière dont je, enfin moi je suis un pur produit de la génération Erasmus. Voilà, je suis partie en Angleterre quand j'ai eu 20 ans, j'ai vécu à l'étranger en permanence voilà depuis que j'ai 20 ans en fait. J'ai vécu 3 ans à Paris. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, joue un rôle. Enfin, c'est vraiment mon quotidien. Mes amis sont tous étrangers. C'est cette première génération-là qui a bénéficié aussi de l'essor des low cost et compagnie. Donc, qui est extrêmement mobile. Et évidemment, L'auberge espagnole a été un film. Et toute cette trilogie, d'ailleurs, ouais, les poupées
c'est
russes.
C'est un peu le modèle, c'est ce que vous avez envie de vivre. Quoi.
Oui, pour moi, quand j'ai vu L'auberge espagnole, en fait, je rentrais d'Angleterre de mon Erasmus. Et j'ai eu l'impression. D'ailleurs, j'ai fait une interview de Cédric Clapiche pour Café Babel, ce magazine dont je vous parlais. Tellement
qui
j'avais
est
adoré.
À côté des locaux de cette radio. Qui sont même à côté, enfin de dedans, qui à l'époque, donc vous êtes revenu sur les lieux du crime.
Exactement, retour à l'envoyeur, retour où, là où j'ai commencé en fait, chez Café Bell. Donc
mais je vous assure que vous n'avez rien fini encore.
J'espère. Mais et en tout cas, non, j'ai eu la première fois que effectivement le film de Clapiche, c'est incroyable, ça m'a parlé. Parce que quand j'ai essayé d'en parler à des gens qui étaient restés par exemple à la fac, moi j'ai fait du droit, donc, ou à mes parents, à mes amis, personne ne comprenait cette espèce de, tout ce qui allait changer justement, comme ça devenait facile de bouger, finalement qu'on allait pouvoir travailler, aimer, sans frontières. Et voilà, en voyant L'auberge espagnole, je me suis dit, ah, si, je ne suis pas seule, il y a d'autres personnes qui sont concernées par ça.
Alors votre livre est aussi très drôle, vous avez un don pour le détail qui cloche, vous écrivez des, je ne sais pas comment on peut écrire des choses aussi drôles que vous sur la PMA. Et j'avais envie de vous demander, est-ce que c'était un choix que vous aviez fait, parce que finalement tout ce qui arrive à vos personnages n'est pas bien grave, qu'il ne fallait pas prendre ça au sérieux?
C'est plus
l'histoire qui est tragique que leur histoire.
Bah, de toute façon, effectivement, là, le être rattrapé par le principe de réalité, c'est jamais très drôle. L'humour a un côté politesse du désespoir, mais je trouve que c'est aussi important de rendre les... L'humour, ça permet de créer une proximité avec le lecteur. À partir du moment où on arrive à faire rire le lecteur, il va s'attacher au dessin des personnages, par exemple. Il va être plus proche. En tout cas, pour moi, c'était un moyen d'avoir cette proximité.
Il y a aussi autre chose, il y en a plein d'autres, mais il y a aussi une autre chose que j'aime bien, c'est que vous n'avez pas peur des clichés. Vous allez dedans, quoi. Vous ne posez pas la question en disant « mais ça, on ne peut pas dire ça d'un Allemand, c'est pas bien ». Vous y allez.
Oui, j'y vais. Ça me pose parfois des problèmes, d'ailleurs. Cette
avec vous-même, franchise. Avec d'autres personnes?
Non, pas avec moi. Moi, j'ai aucun problème avec moi-même. C'est plutôt... J'ai eu un blog à un moment donné, en fait, où j'écrivais beaucoup sur ma vie en Allemagne, où j'étais extrêmement cash. J'avais à peu près le même ton que sur le livre. Et voilà, utiliser des mots comme schleu, par exemple, vraiment... faire des petites boutades pas limite, mais je pense que effectivement
non c'est que vous jouez avec le cliché, c'est quelque chose qui vous fait pas peur. On est toujours des gens qui sont de troisième degré, qui mettent en abîme. Vous y alliez?
Bah franco. on peut me le reprendre. Moi j'ai pas, enfin voilà, moi ça me fait rire aussi.
Votre éditeur par exemple, ça lui a pas fait peur? Non, ça quand même.
Non.
Par exemple, la colocataire, c'est une caricature d'allemande quand même.
C'est une caricature d'allemande.
Mais elles existent.
Non. Hein. Non, bah, y en a, absolument. Non, non, mon éditeur
très
a
rigide,
été formidable.
Très...
Il m'a pas du tout. Il n'y a pas eu de censure, d'autocensure. Voilà. Il n'y a pas là-dessus. J'ai eu une liberté totale. For all the times that you're in my parade,
And all the clothes you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on, cause I think you should be something I don't wanna hold back. Baby, you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. I get so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Problem was with you and not them. And when you told me that my opinion was wrong, you tried to make me forget where I came from. Oh, I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on, cause I think you should be something I don't want to hold back. Baby, you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. I get so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. I never liked to admit that I was wrong. I get so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, well you should go.
On n'a pas pris de la pop allemande, mais Love Yourself avec Mario Joes par Kitsch Funk dans leur album Scary Pockets.
La relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Alors nous sommes toujours avec Prune Antoine pour son premier roman, L'heure d'été aux éditions Anne Carrière. Vous louiez votre éditeur juste avant la pause musicale, donc on va le citer, Jean-Baptiste Gendarme. Et on l'a dit, votre livre est un roman d'apprentissage, d'amour, mais c'est aussi un portrait de cette ville. Et dans la dernière partie, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que tous les derniers chapitres, vous ne faites pas au début, mais à peu près au milieu, commencent par le portrait. Alors on a une riche américaine, un réfugié, tous ces personnages qui sont là, qu'est-ce que vous vouliez faire? Pourquoi vous avez... À un moment fait cette rupture, c'est volontaire quand même.
Oui, c'est complètement volontaire, mais c'était en fait une manière d'aborder différentes problématiques. Donc par exemple, à un moment, alors vous parlez de la troisième partie, mais il y a aussi donc le prof de tango qui est un grec exilé qui me permet de parler de la crise économique en Grèce. Rita Kimmel qui est une vieille allemande, de l'Est.
Moi j'aime beaucoup l'américaine parce que je pense qu'elle est très vraie l'américaine.
Oui, l'américaine Arty qui est arrivée pour... vous parlez de la polonaise ou de l'américaine?
Ah, moi je parle de l'américaine, celle qui vient chercher des auteurs. Des artistes bankable,
oui.
Qui arrivent à Berlin et préjugés américains.
Exactement. Oui, elle est... Et en fait, c'était vraiment pour parler de situations aussi politiques et sociales en arrière-plan. sociale et en arrière-plan. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ces petits personnages. La polonaise, par exemple, complètement gender fluide, qui est membre de ce
gender fluide.
Elle est, c'est pareil, c'est une manière de parler de la Pologne, de la montée des conservatismes. Donc, il y a chaque personnage est un peu un prétexte pour aborder une situation sociale ou politique donnée en Europe ou même au-delà d'ailleurs.
Quand vous, parce qu'on parle beaucoup de politique, de grande histoire, c'est aussi une histoire d'amour, votre roman, entre Violette, la journaliste, et le photographe Mir, un personnage, comment dire, assez silencieux, on va dire.
Assez
pourrait,
flou.
Il pourrait être réalisateur, et c'est une histoire d'amour, comme on n'a pas trop l'habitude d'en voir dans les livres. Parce que, ils s'aiment, mais alors ça se voit pas du tout. Leur slogan, c'est pas d'engagement, pas d'emmerdement.
Exactement, mais je pense que ça correspond en fait à quelque chose de très contemporain. Par exemple, on a été un petit peu bercé avec des histoires d'amour reloues, le prince charmant qui arrive sur son cheval, qui va vous courtiser. Enfin, voilà, j'ai pas non plus 90 ans, mais en gros, ça ressemblait un petit peu à ça, aux histoires d'amour avec un homme toujours en train de tout faire et madame qui a la fenêtre en train de, voilà, avec son petit mouchoir. Là, c'est une histoire complètement à rebours où ça va être plutôt elle. Ça va plutôt être le personnage féminin qui va vraiment y aller. On ne sait pas trop. Au départ, c'est plutôt un malentendu.
Non, on ne sait pas trop. On ne sait pas.
On sait pas.
C'est
mais...
le contraire de ce qu'on lit d'habitude sur la mort dans les livres. Quand
oui,
même.
Mais parce que je pense qu'aujourd'hui, on est une génération où on a tellement le choix permanent. Enfin, il n'y a qu'à voir au niveau des, voilà, l'utilisation des... Maintenant, on rencontre les gens sur Tinder, etc. Donc, c'est très difficile de s'engager. C'est aussi un truc quand même assez cardinal, j'ai envie de dire, des trentenaires cadras aujourd'hui. C'est, oh mon Dieu, mais comment m'engager à la fois dans le travail, à la fois dans une relation, et cette relation, non-relation des deux personnages principaux est, je trouve, très emblématique de l'époque.
Vous qui les connaissez bien, ils s'aiment quand même.
Bien sûr qu'ils
s'aiment. Ils s'aiment très fort, j'ai l'impression. Mais ils ont peur de se le dire ?
Je pense qu'ils ont peur, oui. Ils ont peur de se le dire, ils ont peur des conséquences.
Ils ont peur d'arrêter, c'est ce que vous dites, il y a tellement de choix, ils ont peur d'arrêter à un moment donné et de ne pas pouvoir, peut-être de se tromper.
Surtout de se tromper et de se fermer des portes aussi. C'est, voilà, quand on célèbre quand même la liberté en permanence, le fait de pouvoir être, voilà, d'être dans cette liberté, cette légèreté, c'est difficile d'être dans la construction aussi, de faire les sacrifices, les compromis qui peuvent s'imposer, ou pas d'ailleurs.
Comment vous voyez Berlin aujourd'hui ?
Comme une ville qui a perdu son âme.
Carrément ?
Ouais.
C'est-à-dire, parce qu'à un moment, vous expliquez dans le roman, c'est très fluide, c'est pas du tout un cours. Vous dites que c'est une ville où tout est possible, notamment parce que là, il y a pas d'argent et donc tout le monde est créatif. Il y a trop d'argent aujourd'hui ?
Je sais pas si l'argent est arrivé, mais si on prend la spéculation immobilière, par exemple, je sais, le marché de l'art, je pense que ne marche pas. Pas extrêmement bien, c'est-à-dire que si on est... En fait, ça a toujours été ça, les artistes commencent à Berlin et puis s'ils veulent vendre, ils déménagent à New York, Londres, Paris, même si c'est quand même en train de changer. Mais si on se focalise juste sur l'immobilier, là, c'est quand même... Il n'y a aucune ville en Europe qui connaît, même au monde, j'ai l'impression, qui connaît un processus de gentrification aussi rapide. C'est-à-dire les 10 dernières années, les loyers ont explosé, voilà, il y a des fonds d'investissement scandinaves qui rachètent, beaucoup de gens qui se font expulser.
Parce qu'on a toujours l'impression, quand on y va en vacances, que c'est quand même pas cher par rapport à Paris. Mais par rapport à...
C'est toujours dans la comparaison, mais en tout cas, le Berlin d'aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, bon, alors après, pareil, par rapport à juste après la chute du mur, c'est quasiment devenu Paris aujourd'hui.
C'est la fermeture des squats aussi, des squats d'artistes, il y en a plus.
Ça fait longtemps. Oui, les squats, c'était 2010, ont été fermés parce qu'effectivement, c'est des espaces à construire. Donc pour les promoteurs, c'est extrêmement intéressant. Il y a des immeubles qui sont rénovés. Il y a beaucoup d'expulsions. Ça, c'est aussi on n'arrive plus à se loger. Le marché du logement commence à devenir extrêmement tendu, avec des tarifs délirants, et donc forcément ça pousse les gens en bordure, et voilà, il se passe la même chose qui s'est passé à Paris et à Londres.
Bon, alors j'ai quand même posé ma question, Berlin c'était mieux avant ?
Oui, mais bon, ça c'est un peu comme la vieille bique qui va vous dire tout est mieux avant.
C'est Berlin, c'était mieux avant, ou c'est nous qui vieillissons trop vite ?
Les deux. Je pense que c'est, ouais, il y a pour moi Berlin, parce que c'est une ville qui est tellement dans le changement. En fait, c'est une ville qui a su se renouveler au cours du XXe siècle énormément. C'est quasiment une ville fantasme. On y met aussi ce qu'on veut, et qu'elle incarne la jeunesse beaucoup. Justement, elle s'arrête jamais, elle change tout le temps. Et c'est justement quand soi-même on vieillit un petit peu, on a peut-être du mal avec ça.
Peut-être qu'on change moins nous-mêmes, alors on supporte moins le changement autour. Vous disiez même tout à l'heure que c'est une ville de mélange harmonieux entre des gens venant de tous les pays. J'ai noté, vous écrivez à un moment, page 267, j'ai même noté, l'Europe lui est apparue comme une sorte d'anomalie spatio-temporelle, un miracle ou un mirage. Vous pensez que Berlin, c'est l'essence même de l'Europe ? L'enfant de vos deux personnages, c'est le symbole de ce mélange, puisqu'ils vont avoir un enfant, je le dis. Voilà,
on ne sait pas si ça va fonctionner.
Mais moi, je suis optimiste. C'est le symbole de cette Europe-là, mixage.
Oui, pour moi, je pense que Berlin, c'est vraiment la ville européenne par excellence, qui est à la fois voilà, le côté franco-allemand, peut-être qu'on peut considérer comme le couple à la base de l'Union européenne, mais avec toute cette vague d'immigration qu'il y a eu ces dernières années, c'est devenu extrêmement cosmopolite. Et j'ai l'impression parfois beaucoup plus que Paris, alors que Paris est quand même... Donc pour moi, c'est la ville qui concentre à la fois les espoirs et l'avenir du continent.
Et est-ce que derrière son ton léger, humoristique, c'est finalement un roman engagé? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que ça vous chaîne si je vous dis ça?
Ah non, moi, on n'écrit pas juste pour faire des
blagues.
Vous
défendez cette idée d'Europe, là?
Je suis très heureuse. Pour moi, l'Europe, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. C'est une conviction personnelle que je me suis forgée à travers diverses expériences. Et c'est un idéal dans lequel je crois. C'est un des derniers idéaux, je crois, que j'ai. Et je suis évidemment... extrêmement concernée par ce qui se passe, notamment à l'est de l'Europe, la montée des populismes, le fait que personne ne s'entend, la bureaucratie terrifiante de Bruxelles. J'ai travaillé pendant 6 mois au Parlement européen il y a quelques années, et c'est des choses voilà, qu'il faut vraiment réformer, qu'il faut changer. Le Brexit, voilà, on est quand même pas sur une pente par rapport au tournant des années 2000. Je me souviens de l'arrivée de l'euro.
Ouais.
On était là, mais voilà, l'Europe, c'est génial, demain. Et là, on observe quand même un cloisonnement. En tout cas, chacun se replie, chaque pays et chaque personne.
Ouais, c'est vraiment un mouvement historique. Il y a vraiment les années 2000 une espèce d'ouverture, d'abolition, des frontières qui tombaient avec Internet par-dessus ça, alors qu'aujourd'hui on a l'impression que tout se referme partout et tout se recroqueville. C'est la chance d'avoir un peu d'âge et qu'on a vu les deux, et c'est très surprenant à voir parce que rien ne permettait de le soupçonner. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi parfois je me demande à quel moment il y a eu un problème et je ne le vois pas, je ne sais pas vous.
Bah, c'est une excellente question. Je me la pose aussi. Non, mais je pense qu'il y a eu, le référendum 2005 plus la crise financière qui n'a pas du tout été jugulée de manière correcte. Donc c'est peut-être à ce moment-là, vraiment 2008-2010, qu'il y a eu un basculement.
Avant de vous installer à Berlin, vous venez de parler de la Belgique. J'ai vu que vous aviez passé par l'Angleterre, l'Espagne, la Hongrie. Est-ce que vous pourriez repartir aujourd'hui et est-ce que ça pourrait être en dehors de l'Europe?
Alors, à chaque fois que je suis en dehors de l'Europe, l'Europe me manque et je sens à quel point je suis européenne. Quand je suis aux États-Unis, quand je suis en Asie, c'est vraiment quelque chose... Ah non, ça me manque. Donc, j'ai eu à un moment donné, j'ai caressé le rêve d'aller en Grèce, comme tout le monde. Mais je pense qu'Athènes, parce qu'Athènes était un peu considérée comme le nouveau Berlin il y a peut-être 3-4 ans.
Non, moi, je croyais que c'était Leipzig.
Oui, Leipzig aussi, mais bon, ça reste l'Allemagne. Pour le coup, changeons un petit peu de soleil. Oui, c'est une possibilité. Je n'exclus pas du tout d'aller vivre, de refaire mes bagages et de repartir, même si c'est toujours difficile de recommencer à zéro, mais pourquoi pas.
Vous travaillez sur un nouveau livre actuellement?
Pas du tout.
C'est fini
Pour le moment, je suis dans la phase le book blues. J'ai l'impression que voilà, on a été tellement investi, on a tellement vécu avec ça pendant plusieurs mois, vraiment à travailler sur chaque virgule, chaque détail. Ça vous a vraiment rempli. Qu'il y a voilà, une fois que le livre est sorti, il y a une espèce de petite phase où voilà, on redescend, on digère et voilà, et l'inspiration revient. Mais là, à l'heure actuelle, non. Mais voilà, il me faut un petit peu de temps pour.
Il y a des gens qui s'intéressent au droit? Parce qu'on se dit que ça serait un formidable film, une série peut-être?
Je ne sais pas, il faudra, pas ma connaissance.
On va demander à l'éditeur. C'est quelque chose qui vous intéresserait de l'adapter?
Évidemment, c'est génial.
Parce qu'il est très visuel quand même. On pourrait assez facilement faire un scénario. Enfin, facilement, je ne sais pas, mais on pourrait en faire un scénario.
Oui, moi je... en fait, c'est vrai que le héros est photographe. C'est quelque chose qui joue aussi un très grand rôle. Et je l'ai pensé aussi au niveau de l'enchaînement des scènes. C'est des choses qui sont des scènes très vivantes. Qu'on peut facilement... évidemment, moi en plus, je suis très intéressée par toute cette complémentarité entre les différents médiums. C'est ce que je vous disais au départ, les correspondances, le cinéma, la littérature, bien sûr. Si ça peut se faire, ça serait génial.
Merci d'être venue par Radio Campus. J'espère que le choc n'a pas été trop violent, que vous êtes remise. Je rappelle, vous appelez Prune Antoine, vous publiez L'heure d'été, c'est votre premier roman, il est publié aux éditions Anne Kaya. Merci beaucoup d'être venue.
Merci à vous.
Voilà, vous venez d'écouter La Relève, c'était l'épisode 14 de la saison 3. La réalisation était signée par l'indispensable Antonin. La présentation et la préparation étaient assurées par Christophe. Vous retrouverez le podcast de l'émission sur le site de Radio Campus Paris. Vous retrouverez toutes les informations que vous pourrez imaginer sur la page Facebook de l'émission. Merci de nous avoir écoutés, rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, restez à l'écoute du programme musical de Radio Campus Paris et rendez-vous à 19h pour la matinale. Merci.